Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, vous venez d'écouter notre petite musique de Charlie Brown. Nous sommes le mercredi 26 avril 2023, vous écoutez Au fil des pages, vous êtes sur Radio Libertaire, tout va bien. Merci de nous rejoindre sur ces ondes qui sont, je l'espère, vos ondes favorites. Alors Au fil des pages, une émission consacrée aux livres. Aujourd'hui, Frédéric, Marie, Dominique, Francis et notre invitée Virginie Dupérou pour nous parler de son livre « Amiante et mensonges, notre perpétuité » aux éditions Valmont. Donc les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois, de 17h à 18h30, nous nous retrouvons sur 89.4 et sur le net pour ceux qui ne seraient pas en région parisienne. Évidemment, vous pouvez nous réécouter en podcast. Nous sommes encore au mois d'avril, à partir de ces journées, là, on prépare le 1er mai, enfin, ça fait un moment entre nous, mais on lit, on lutte encore, on lutte toujours. Et avant de parler de nos lectures, Frédéric, est-ce que nous avons quelques annonces? Il n'y a pas d'annonce. Alors moi, je vais faire une annonce. Ce sont nos amis des éditions Noir et Rouge qui nous invitent les samedis 6 mai et dimanche 7 mai. Alors, le samedi 6 mai de 10h à 18h et le dimanche 7 mai de 11h à 16h à une fête du livre. Vous y trouverez des milliers, faut bien le dire, c'est vrai, nous y allons régulièrement, des milliers de livres neufs et d'occasion, de la bande dessinée, des romans, des essais, des livres d'art de toute beauté, des livres d'histoire et politique, parfois rares, épuisés ou introuvables. Et tout cela à des prix d'occasion. Je donne l'adresse de cette fête du livre, 8 impasse Crozatier, dans le 12e arrondissement, au métro Faidherbe-Chaligny, ligne 8. Donc ça, n'oubliez pas, samedi 6 mai, dimanche 7 mai, vous aimez les livres, vous aimez découvrir des livres rares, anciens, n'hésitez pas à y aller. Et puis, je voudrais faire état aussi d'un point qui nous a profondément choqués. C'est tout simplement le responsable des droits étrangers aux éditions La Fabrique, Ernest, qui a été arrêté, Ernest Moret, qui a été arrêté par la police antiterroriste britannique à son arrivée à la gare de Londres. Alors, il a été libéré de sa garde à vue, mais on lui a conservé son ordinateur professionnel, son téléphone, il a été interrogé pendant plusieurs heures, on lui a posé des questions sur son point de vue sur la réforme des retraites en France, sur le gouvernement français, sur le président Macron, son avis sur la crise du Covid. Enfin bref, on l'a interrogé sur tout un tas de thèmes, et puis on lui a même demandé de nommer les auteurs anti-gouvernementaux du catalogue des éditions La Fabrique, donc pour laquelle il travaille. Alors c'est quand même assez étonnant, parce qu'on vient d'arrêter une personne dans un pays où se réfugiaient accessoirement des hommes et des femmes épris de liberté, notamment qui écrivaient et qui se réfugiaient en Grande-Bretagne pour protéger la liberté d'expression, pour leur liberté d'expression, mais aussi celle des autres, les droits démocratiques. Et c'est quand même assez étonnant de voir que cette personne a été arrêtée alors qu'elle se rendait à une foire internationale du livre à Londres. Donc les éditions de La Fabrique protestent évidemment contre ces faits, et nous nous associons évidemment à cette protestation. Le communiqué est disponible, il est sur le site du Monde Libertaire, donc vous pouvez en prendre connaissance, mais vous pouvez aussi prendre connaissance des faits qui ont été rapportées sur le site notamment du Monde, de Libération, enfin la presse française, s'en est fait largement l'écho. Et puis il y a une tribune qui a été signée par une trentaine d'éditeurs pour dénoncer cette collaboration, je cite, « inquiétante entre les autorités britanniques et françaises et qui constitue une attaque de l'État français contre une maison d'édition ». Je cite toujours. Donc, voilà, nous sommes là, retenons ces éléments, les libertés sont menacées. Alors, par ailleurs, en plus de nous écouter, n'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse postale, librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Alors, pour alimenter le débat, eh bien, nous aurons tout d'abord trois livres, dont un livre présenté par Marie sur le Mediator. Ensuite, une rencontre avec Virginie Dupérou pour son livre que j'ai déjà annoncé, Amiante et mensonges, notre perpétuité. Puis Frédéric abordera dans un moment d'histoire un livre intitulé « Nous sommes en guerre, terreur d'État et militarisation de la police ». Et Dominique, pour alléger un petit peu tout cela, nous parlera, dans la série Le son des mots, d'un livre de Christian Bobin qui regroupe différentes œuvres choisies et qui s'intitule « Les différentes régions du ciel », édition Gallimard. Et puis un autre livre de poésie, Étienne Faure, « Vol en V ». Voilà, donc comme d'habitude, c'est un peu nourri. Alors, premier temps pour ouvrir le débat. Marie, un titre qui permet à l'émission de démarrer fort, une fois de plus, le Mediator. Alors, on se rappelle le scandale, mais aujourd'hui, Irène Frachon, la célèbre lanceuse d'alerte accompagnée d'Éric Giacometti, que nous connaissons pour d'autres livres, et François Duprat, eh bien, nous offre une version BD, un roman graphique, paraît-il. Une BD, c'est sympa. Mediator, un crime chimiquement pur. Alors, Marie, explique-nous cette situation et quelles leçons pouvons-nous en tirer ?
Alors, pour rappel, le Mediator ne relève pas du premier scandale sanitaire mettant en cause les laboratoires Servier. Il y a eu, avant cela, le fameux isoméride, qui au début des années 90 avait déjà été signalé à la pharmacovigilance par le service de pneumologie de l'hôpital Béclair de Clamart. Donc, pour retracer un petit peu l'histoire du Mediator, je fais un petit détour par l'isoméride, hein, parce que c'est ce qui permet en fait de comprendre le scandale du Mediator. Car donc l'isoméride est un médicament à effet coupe-faim qui est composé de molécules anorexigènes, les fameuses fenfluramines, qui sont dérivées en fait de l'amphétamine. Donc c'est une drogue dévastatrice qui a été utilisée notamment par les soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et puis après à d'autres fins. Donc dans les années 70-80, elle a fait beaucoup de ravages, hein, cette amphétamine. Et donc l'isoméride, donc, qui en contient, a été consommée par des dizaines de milliers de personnes depuis sa commercialisation en Europe comme aux États-Unis. Et en fait, ce médicament ciblait principalement des femmes qui étaient en léger surpoids, donc qui souhaitaient perdre quelques kilos. Donc le PDG des laboratoires Servier, hein, Jacques Servier, avait à cette période parfaitement capté la recrudescence des cas d'obésité et de diabète dans le monde d'après-guerre en pleine réindustrialisation. Pardon. Et en fait, il savait pertinemment qu'il y avait une carte à jouer dans ce domaine-là. Sauf que Servier est bien moins scientifique comme d'affaires influent, et c'est ce qui va condamner justement toutes ces personnes à travers le monde. Donc revenons d'ailleurs à l'hôpital Béclair, où l'équipe de pneumologues, dont fait d'ailleurs partie la brestoise Irène Frachon, s'inquiète dès 1987 du nombre croissant de patientes atteintes d'hypertension artérielle pulmonaire et qui sont justement sous isoméride, alors que le médicament a été commercialisé seulement 2 ans plus tôt. En clair, l'affaire de l'isoméride, en fait, est le premier chapitre de ce deuxième gros scandale sanitaire qui incrimine les laboratoires Servier une quinzaine d'années plus tard, car le Mediator en est le dérivé. Et donc, en fait, dans cette bande dessinée, Irène Frachon et Éric Giacometti, bien sûr, font état de cette longue et éprouvante épreuve qu'a menée la pneumologue. Hein.
Et les morts qu'il y a eu, non ?
Bien sûr. Il y a eu des dizaines de milliers de morts, ça c'est clair, et pas qu'en France, sûr. Mais voilà, on ne peut pas donner un chiffre exact du nombre de morts, mais déjà, il y avait 300 000 Français concernés par de potentiels effets secondaires pulmonaires et cardiaques. Et donc, en fait... Anne Frachon, donc soucieuse de sauver des vies, inversement à Jacques Servier, qui se préoccupait davantage de l'immense profit qu'il a obtenu avec l'appui de la classe politique. Donc, elle a mené donc toute cette enquête au début des années, enfin début 2007, donc au CHU de Brest. Et une de ses patientes est atteinte d'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, elle, ça lui fait directement écho à l'isoméride. Et le médiator, commercialisé en 76, donc comme on l'a dit, donc c'est un dérivé de l'isoméride. Et en fait, il est fabriqué donc sur la base donc de ces molécules similaires, les molécules amphétaminiques. Sauf qu'à l'époque, Servier a fait stratégiquement passer donc le médiator comme un antidiabétique et non pas comme un coupe-faim. Tout simplement dans le but d'en obtenir le remboursement par la sécurité sociale.
Donc il en connaissait le danger.
Il en connaissait le danger et bon bah évidemment lui ce qui l'intéressait c'était la rentabilité. Mmh. Et donc au grand dam d'Irène Frachon, donc le médiator est encore très vendu au début des années 2000 2007 lorsqu'elle commence ses investigations. Et donc elle signale justement les cas d'hypertension artérielle à la pharmacovigilance, et en fait elle ouvre ainsi une boîte de Pandore au sein de la communauté scientifique, et en fait elle se rend justement rapidement compte qu'en plus d'attaquer donc les artères pulmonaires, le médiator est également à l'origine de valvulopathie cardiaque, donc d'où souffrent justement les patients. Et donc après avoir contacté le laboratoire Servier, elle obtient la réponse tranchante que l'isoméride et le médiator sont radicalement différents en termes de structure chimique. Ce qui ne la convainc pas, bien sûr. Elle enquête donc sur toutes ces molécules dérivées de l'amphétamine présentes dans le médiator et se rend compte en fait que Jacques Servier a délibérément fait croire à tous les médecins et les consommateurs qu'il n'y avait aucun lien justement entre l'amphétamine et les fenfluramines utilisées pour fabriquer l'isoméride et le médiator. Donc en fait, elle découvre aussi, donc ça c'est la preuve accablante, c'est que le nom de la molécule Norphène, hautement toxique et présente dans les amphétamines, a été modifiée sous le nom de code S585. Donc, afin de justement de ne pas être mis en cause par les autorités. Et donc ça, en fait, c'est vraiment Jacques Servier qui a demandé à ce que le nom soit transformé pour pas qu'il y ait de problème. Et donc, en 2008, elle a tenté d'alerter cette communauté scientifique, même à l'international aussi, mais elle n'est pas prise au sérieux. Pourtant, il s'agit d'une véritable crise sanitaire. Donc, comme je vous ai dit, le médiator, il expose 300 000 consommateurs rien qu'en France. Et donc, loin de se décourager, elle poursuit son combat. Elle contacte l'agence du médicament, qui est comme le gendarme du médicament, en 2009. Et après avoir collecté donc de nombreuses données, elle montre toutes ses études, mais en fait, ça ne convainc personne. Et elle en finit par publier un livre en juin 2010. Médiator, 150 mg, combien de morts ? Et ce livre, en fait, sera le titre, en fait, combien de morts sera censuré ? Et elle sera attaquée en diffamation par les laboratoires Servier. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir à travers cette bande dessinée, c'est que tout le combat d'Irène Frachon, résumé de manière très pédagogique dans cette bande dessinée, c'est que en fait l'affaire du médiator ne consiste pas uniquement à dénoncer un scandale sanitaire de grande ampleur basé sur les mensonges, les dissimulations et toutes sortes de barbouzeries orchestrées par Jacques Servier, mais en fait c'est aussi le combat qui pointe du doigt toutes les dérives des autorités sanitaires nationales et internationales qui, par leur minimisation des risques et leur inaction, se sont rendus coupables de complicité de crime, hein, clairement, considérant que les cas de valvulopathie et d'hypertension artérielle pulmonaire révélés par Irène Frachon et ses collègues de Brest sont dérisoires, car finalement, la parole des petits médecins de province ne pèse pas bien lourd dans la balance, hein, en comparaison aux grandes éminences des hôpitaux parisiens. Et cela, finalement, constitue une grave atteinte à la dignité des victimes empoisonnées par le médiateur. Le médiateur, donc, Irène Frachon, en fait, elle démontre aussi à travers ce livre la dangerosité du lobbying pharmaceutique, en fait, qui sévit dans les quatre coins du monde, hein, et son influence désastreuse dans le monde politique, et également au sein de la justice, de la justice française, hein, car Jacques Servier n'a jamais été condamné pénalement. Les laboratoires uniquement à du sursis, puis bon, bien sûr, on les oblige à dédommager les victimes, mais ça reste très 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 faible, hein, finalement. Bon, en 2009, le Mediator est quand même retiré du marché, mais la compensation est assez maigre, finalement. Le but était vraiment d'obtenir une réponse pénale. Il y a eu un premier procès pénal en 2009 qui a duré 7 mois, qui n'a pas donné grand-chose finalement. Donc là, justement, le 9 janvier dernier, il y a le procès en appel qui a été ouvert. On attend toujours les réponses.
Oui, le délibéré. Et cette question de ne pas révéler, de cacher, de couvrir les comportements des industriels, on reviendra dessus avec Virginie Dupérou dans quelques temps, dans un instant. Tu peux nous rappeler simplement le titre, l'éditeur.
Donc, Mediator, un crime chimiquement pur, donc paru aux éditions Delcourt, et donc écrit par Éric Giacometti, Irène Frachon, et le dessin, c'est François Duprat.
Voilà. D'accord, très bien. Merci Frédéric, un peu de Nora Jones. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you get bien, nous étions un peu aux États-Unis et je voudrais vous parler d'un livre d'un monsieur que j'aime beaucoup, Noam Chomsky. Un livre de Chomsky est toujours intéressant car ce professeur américain est un intellectuel et un militant reconnu internationalement pour ses réflexions, sa défense radicale de la liberté et de la raison, ce qui n'est pas commun aux États-Unis. Alors, il a une approche caustique, notamment de la politique internationale américaine. Et là, les éditions Lux nous livrent un recueil d'entretiens avec ce militant, rassemblé sur 2018-2022. Il aborde la question du trumpisme, les séquelles sur la société américaine, le système centriste de Biden qui se représente là aux élections n'échappe pas non plus à ses critiques. Il est clair que ses préférences allaient vers Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, mais il s'interroge aussi sur la gestion de la pandémie du coronavirus, la crise climatique, les risques d'un conflit nucléaire et la guerre en Ukraine. Alors pour lui, et là-dessus c'est pour lui très important, il faut s'appuyer sur les mouvements populaires qui se mobilisent contre les puissances des systèmes. Je cite, « Ils luttent contre les politiques dévastatrices et cherche à créer un système international qui accorderait la priorité aux droits et aux besoins des êtres humains et non à ceux des seuls détenteurs de capitaux. On est bien dans une logique de critique du système et d'avoir une alternative. Alors vous goûterez les titres de certains chapitres. L'avenir passe par un New Deal vert. Le culte du marché menace la civilisation humaine. Réveiller la racaille. Bah oui, on en fait partie, hein, accessoirement de la racaille, suivant la célèbre chanson. Et un dernier, plutôt actuel en France, le retour de l'autoritarisme politique. À vous de lire. Alors, Noam Chomsky, Le Précipice, aux éditions Lux, 2022. Et puis, dans la même lignée de critiques, toujours aux éditions Lux, un livre qui est ancien, puisqu'il a été écrit en 1850 par un dénommé Anselme Bellegarigue, et réédité récemment donc par Lux. Et on considère que ce livre est la première exhortation clairement énoncée en faveur de l'anarchisme. Alors, qui est Anselme Bellegarigue ? Peu d'informations à son sujet. Il naît en France, à Montfort, dans le Gers. Très jeune, il part en Amérique du Nord. Puis, il s'attache là-bas aux libertés individuelles et à la notion de démocratie, sans gouvernement central. Puis, il revient en France. Et en 1848, il publie un pamphlet, au fait, interprétation sur l'idée de démocratie. Et il insiste sur le fait qu'après la Révolution, quelle qu'elle soit, au lieu de constituer le pays, ils se sont empressés de constituer eux-mêmes un gouvernement pour protéger leurs prérogatives. Donc il dénonce systématiquement le rôle des responsables politiques qui usurpent tous les pouvoirs, utilisent le peuple pour faire la révolution et détournent les révolutions vers davantage d'autorité et de centralisme. Alors, il y a dans un article de son journal L'Anarchie, journal de l'ordre, ouais, là aussi, on retrouve un peu la formule d'Élisée Reclus, l'anarchie, la plus haute expression de l'ordre. Il y a cette formule. Qui dit anarchie dit négation du gouvernement. Qui dit négation du gouvernement dit affirmation du peuple. Qui dit affirmation du peuple dit liberté individuelle. Qui dit liberté individuelle dit souveraineté de chacun. Qui dit souveraineté de chacun dit égalité. Qui dit égalité dit solidarité ou fraternité. Qui dit fraternité dit ordre social. Donc, qui dit anarchie dit ordre social. Voilà, la formule, elle est là. Mais vous retrouverez d'autres éléments tout à fait intéressants parce que, pour lui, l'intérêt collectif ne peut être complet qu'autant que l'intérêt privé reste entier. Car comme on peut entendre par intérêt collectif l'intérêt de tous, il suffit que dans la société l'intérêt d'un seul individu soit lésé pour qu'aussitôt l'intérêt collectif ne soit plus l'intérêt de tous et ait par conséquence cesser d'exister. On retrouve du Stirner, mais la différence réside dans une forme d'égoïsme de Stirner. Vous connaissez sans doute son livre, L'unique et sa propriété, alors que Bellegarigue, lui, vise le collectif. Il évoque aussi la notion de désobéissance civile. Taureau n'est pas loin. Vous avez cru jusqu'à ce jour qu'il y a des tyrans, vous vous êtes trompé. Il n'y a que des esclaves. Là où nul n'obéit, personne ne commande. Et là, on songe au discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Dans d'autres pages, vous retrouverez Proudhon. Un gouvernement étant donné, vous ne pouvez pas éviter la faveur qui fonde le privilège, qui provoque la division, qui crée l'antagonisme, qui détermine la guerre civile. Et puis, je terminerai avec un passage qui fait penser à Louise Michel. Il n'y a pas de pouvoir qui ne soit l'ennemi du peuple. Le pouvoir est toujours le pouvoir, c'est-à-dire le signe irréfragable de l'abdication de la souveraineté du peuple. Louise Michel, qui sera en couverture de, du Monde Libertaire, qui va, sera en vente à partir du 1er mai. Je rappelle le titre, enfin l'auteur et le titre, Anselme Bellegarigue, Manifeste de l'anarchie aux éditions Luxe en 2022. Et Frédéric, en attendant notre amie Virginie, est-ce que tu peux nous passer les poussières de l'amiante, les victimes de l'amiante, pardon. Bonjour Virginie.
Bonjour. Allô, mon fils. Allô.
Allô.
Allô, tu m'entends? Vous m'entendez?
Non, ça... Frédéric.
C'est l'antenne.
Non, moi,
c'est
je l'entends
Frédéric.
Pas.
Et je parle, là. Vous
voilà, ça y est, maintenant, c'est ça bon, vient. Là, ça c'est un problème technique.
D'accord.
Alors, donc, Virginie, ben, on était en train d'écouter Les Victimes de l'Amiante, là, c'est sans doute un groupe que tu connais.
Oui, j'y va.
Alors, tout d'abord, avant de présenter la lutte que tu as engagée, un mot sur le titre qui résonne comme un cri de rage, mais aussi un cri d'amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a guidé? Et pourquoi écrire ce livre?
J'ai souhaité que Paul Dupérou, mon père, puisse témoigner, bien qu'il ne soit plus de ce monde. Mon père est une victime de l'amiante et je précise que c'est une victime environnementale. La plupart des victimes sont des victimes professionnelles, mais Paul est une victime environnementale. Dans tous les cas, ce sont des victimes de crimes industriels et le résultat est le même.
D'accord. Alors, pourquoi avoir écrit notre perpétuité?
Alors, amiante, on comprend facilement, effectivement. Oui. Mensonge, je peux en parler un petit peu. Mais je pense qu'on le développera au cours de l'interview. Oui. Le mensonge a été récurrent depuis le début du XXe siècle sur la non-toxicité de ce cancérigène sans seuil. Et puis, à notre niveau, dans notre histoire personnelle, le mensonge, c'est aussi le mensonge médical sur lequel je pense qu'on pourra revenir également. Notre perpétuité, je vais vous dire la vérité, évidemment, le livre devait s'appeler au départ « Amiante et mensonges, nos assassins ». Mais je n'ai pas eu le droit de l'appeler comme ça, puisque je traitais implicitement l'industriel d'assassin. J'ai donc dû changer le titre et je me suis dit, ces gens-là échappent au pénal. Les premières plaintes déposées en France datent de 1996 pour les victimes de l'amiante. Et il y a deux lois françaises qui les couvrent. On pourra aussi éventuellement, si vous le souhaitez, revenir dessus, mais c'est l'impunité à chaque fois.
Oui.
Alors que la perpétuité morale, elle est pour nous les familles, puisque les coupables, les responsables ne sont pas jugés.
Et alors, comment ça fait quand même depuis, en gros, je crois, 1906, qu'on connaît la dangerosité.
Oui, on connaît la dangerosité depuis 1906 exactement. En tout cas, il y a un premier texte qui date de 1906 dans le bulletin de l'inspection du travail. L'inspecteur Auribeau mentionne la toxicité de l'amiante constatée sur des ouvrières de la filière textile en Normandie. Et cet inspecteur-là note qu'entre 1890 et 1895, les ouvrières en question meurent prématurément d'une fibrose pulmonaire alors qu'elles sont en contact avec l'amiante. Le mésothéliome, à l'époque, n'a pas encore été dépisté, trouvé. On n'a pas encore identifié ce cancer. Mais ces ouvrières meurent d'asbestose. L'asbestose, c'est l'équivalent, en gros, de la silicose pour les mineurs, mais c'est dû à l'amiante.
Alors, il y a aussi un article des frères Bonneff. Les frères Bonneff, c'était des gens qui étaient spécialisés sur des articles pour l'humanité sur le monde ouvrier, sur la diversité du monde ouvrier, et qui montrent... qui montre bien que dès 1906, on avait ce danger. Donc c'est quand même assez extraordinaire de voir cette situation quand même. Alors, là, l'originalité, si je puis dire, c'est que votre père, il a jamais travaillé en contact direct avec l'amiante.
Ah non, pas du tout. Mais quand cette histoire commence en juin 2014, mon père déclare une pleurésie. Au début, bon, on se dit, c'est bactérien, c'est pas grand-chose, ça va passer, les antibiotiques ne font rien, jusqu'à ce qu'on lui découvre un cancer de la plèvre. Et la signature, c'est l'amiante. Nous, on ne comprend pas, on ne comprend absolument pas, parce que mon père refait son parcours professionnel. Alors, il était compagnon, Paul, il était carreleur, mosaïste, marbrier et âtrier, c'est-à-dire qu'il dessinait ses cheminées et il les montait. Il n'en a jamais fait une semblable, mais il n'a pas utilisé l'amiante. Il m'a dit, je me souviens de ça, je l'ai utilisé... je ne l'ai pas utilisé. J'ai été en contact avec cette matière très, très épisodiquement. Ça se compte sur les doigts d'une main. Jamais sous sa forme friable, et c'était entre 1985 et 1990. Je vous précise également qu'il s'était intéressé au sujet puisque sa maman, ma grand-mère paternelle Simone Dupérou, était décédée d'un cancer de la plèvre, le mésothéliome, en 1978, en 10 mois. Et effectivement, Paul ne comprend pas à l'époque. Et deux mois après que cette maladie ait été identifiée, on va comprendre par la presse nationale, par aujourd'hui en France, l'édition nationale du Parisien, qui titre le 26 novembre 2014 exactement, empoisonné sans le savoir. Mes parents, alors je suis désolée pour le bruit, il y a quelqu'un qui passe devant chez moi. Mes parents achetaient ce journal et là on découvre ce qui s'est passé au nez sous bois. Et là, mon père est complètement sidéré.
Et alors, au début, vous faites confiance à la médecine ?
Alors, au tout début, oui, il y a ça en parallèle. Évidemment, on fait confiance à la médecine.
Alors, vous allez dans un hôpital, parce que je crois qu'il est, vous êtes installé dans la Nièvre, il est à la retraite. Donc, vous allez à un hôpital de Nevers, d'ailleurs ?
C'est ça, l'hôpital de Nevers, bon. Oui, en service pneumologie. Et on va tomber sur une pneumologue qui va nous annoncer cette maladie comme elle nous aurait parlé de la météo. Mmh. Et puis qui va nous dire, il y a eu de gros progrès sur le traitement de ce cancer. Et en gros, quand on lui demande, parce qu'on veut savoir directement, quelle chance on a, elle nous dit, vous avez une chance sur deux, comme pour tous les autres cancers. Alors que les recherches, les simples recherches sur Internet attestent le contraire. Et le mensonge médical va être récurrent pendant 15 mois. Il va falloir subir les ordres, les contre-ordres. On vous fait 9 séances de chimiothérapie. Non, on vous en fait 4, puis 6, puis... Enfin bref, on va nous mentir sur le traitement qui est inopérant. C'est une combinaison de chimiothérapie Alimta et cystastine qui ne fait absolument rien. Mon père, avant, va subir un talcage. Le talcage, c'est le fait de coller avec du talc les deux parois dont la plèvre est constituée. Il aurait fallu, en fait, pour qu'il ait une petite chance, qu'il subisse ce qu'on appelle un décorticage. C'est une opération lourde où on sort carrément les poumons et où on décortique la plèvre des fibres d'amiante. Comme en gros on va décortiquer des crevettes, c'est pour ça qu'on utilise ce mot-là. Mais très peu de victimes le savent et on n'est pas orienté vers cette chirurgie lourde. Donc mon père va subir un talcage pour que la pleurésie ne revienne plus, effectivement le liquide ne se reforme pas, et va commencer ce traitement de chimiothérapie. On va nous mentir sur la rémission, on va nous annoncer 4 mois plus tard au lieu de 3. D'ailleurs, ils auraient dû vérifier au bout de 3 mois, il a été vérifié 4 mois plus tard, que le cancer a repris et qu'il faut reprendre le traitement. Ça a été un mensonge récurrent de A à Z et tout ça dans un dédain absolu.
Et alors,
il fallait courir après les pièces médicales.
Et alors, est-ce qu'on peut parler d'incompétence médicale? Est-ce que ces médecins étaient des gens incompétents?
Alors, la pneumologue affichait toute sa superbe. Hein, c'est une femme qui officie encore à Nevers. J'ai dû changer son nom pour éviter de me retrouver en procès, mais bon, voilà. Il est facile quand même de voir à peu près de qui il s'agit.
Oui, je crois qu'on pourrait repérer les personnes, hein, parce qu'il ne doit pas y en avoir 50 000 à Nevers.
Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas une quantité... phénoménal, et de la compétence, mais surtout, à mon avis, de l'arrogance. Et puis, pour moi, c'est une maladie de classe. Quand on a un cancer de l'amiante, en général, on est un ouvrier. Là, ils ont vu Carleur en retraite, ils se sont dit, bon, ben voilà, quantité négligeable. Je ne le dis pas comme ça, ce ne sont pas des mots dits en l'air comme ça, mais je peux vous dire que la maltraitance médicale que l'on a subie, ben c'est exactement ça, ça se résume à ça, c'est-à-dire aucun respect pour le patient, aucun respect pour sa famille, ça a été du grand n'importe quoi. Et on est resté là puisqu'il s'agit du protocole de soins de référence, qui est national et qui est même mondial, avec, heureusement, des essais cliniques de plus en plus, un petit peu partout. D'ailleurs, là, au mois de juin, du 26 au 28 juin à Lille, se tient le congrès sur la recherche sur le mésothélium, organisé par le professeur Cherperel, qui officie à Lille, et qui, lui, a un service plein à 300%, et qui aide les victimes de l'amiante le plus possible.
Vous en parlez à la fin de votre livre. Malheureusement, votre père n'a pas pu se rendre à Lille, il est décédé avant, mais là, c'est un service qui est renommé.
Qui est renommé. En fait, il y a le docteur Cherperel qui est très connu et qui se bat aux côtés des associations. Et puis, il y a aussi le docteur Planchard sur Villejuif. En fait, c'était lui que l'on était censé aller voir. J'ai trouvé son nom et là, honte à l'État français, en tout cas à Santé publique France, j'ai trouvé son nom sur un site américain. Et j'avais cherché pendant des mois à l'époque. J'ai trouvé son nom trois semaines avant que mon père ne quitte ce monde. J'ai pris rendez-vous immédiatement. On avait On nous a donné la date du 14 septembre 2015 et c'est le jour où mon père, à bout d'énergie et qui s'est pourtant battu jusqu'au bout, c'est ce jour-là qu'il nous a quittés.
Et dans votre livre, qui se présente comme un journal, le journal de Paul et Virginie, vous échangez beaucoup avec votre père. Et les textes traduisent autant des propos que des regards. Il y a beaucoup d'émotions dans votre texte.
Paul et moi, on n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre. Il était mon père et mon meilleur ami en même temps. Ouais, et quand il a compris l'origine de son empoisonnement, c'est-à-dire avoir été empoisonné par le simple fait d'avoir résidé à proximité d'une usine dont l'activité principale était le broyage d'amiante, en plein centre-ville d'Aulnay-sous-Bois, à partir de 1938, Paul est né en 42, et ils ont fait ça pendant des décennies. Quand il a compris ça, il était hors de lui.
Ça a duré jusqu'à quand l'exploitation de cette entreprise ?
Alors, d'après l'industriel, alors il faut quand même mentionner le nom de cette entreprise qui existe encore. Oui. C'est le CMMT, le comptoir des minéraux et matières premières. Ce n'est pas un géant de l'amiante comme Eternit ou Everit ou Saint-Gobain qui a pollué le Brésil pendant des décennies dans une mine d'extraction d'amiante. Non, le comptoir des minéraux et matières premières, c'est une petite entreprise familiale fondée en 1938 et qui s'est transmise après la mort de son fondateur, de mère en fille. La PDG actuelle, donc, est une femme, c'est Madame Joëlle Briot. Et cette société-là a broyé de l'amiante officiellement, d'après les dires de sa PDG, jusqu'en 1975. Maintenant, la date a été donnée au moment où l'alerte a été lancée en 1996 par Nicole et Gérard Voide. Nicole était en train de perdre son frère Pierre-Léonard d'un mésothéliome à l'âge de 49 ans.
C'est une maladie qu'ils ont contractée à Aulnay.
À Aulnay, ouais. Pour le simple fait d'avoir résidé à proximité du comptoir des minéraux et matières premières. Voilà. Pour le simple fait d'avoir été riverain, d'avoir été à l'école, il faut vous dire que l'école la plus proche était à 1 mètre de l'usine, l'école du Bourg. Donc, des enfants ont été contaminés pendant des décennies. Et ce qu'il faut savoir avec l'amiante, bon, non seulement c'est un cancérigène sans seuil, mais en plus, le temps de latence est très variable. Les pneumologues parlent en général d'un temps de latence de 20 à 40 ans. Mais on a des cas où, 5 ans après une exposition, ce type de pathologie se déclare. Pour ma grand-mère, ça aura mis entre son départ d'Aulnay et son décès, 16 années. Pour mon père, 53 ans. Vous voyez l'écart ?
Oui. Et ce qui est important à noter et à dire pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est que votre père n'y travaillait pas. Car moi, j'ai souvent vu des manifestations, notamment rue de Rennes. Je me rappellerai toujours d'une manifestation. Ah, oui, oui. J'étais avec mes filles et on voyait ces gens avec des visages ravagés, d'autres qui portaient des pancartes avec les photos de leurs proches qui étaient décédés. Mais c'était des gens qui travaillaient dans les ateliers. Et puis, il y avait le cynisme de l'entreprise qui disait, mais nous respectons les normes en vigueur. Oui. Autrement dit, bon, ils ont qu'à crever, c'est pas notre problème.
Mais c'est exactement ça.
Enfin, c'est odieux. Ça. Mais votre père, lui, en plus, c'est que c'est tous les résidents, tous les voisins. Autrement dit, ça a dû toucher des milliers d'habitants d'Aulnay.
Oui, alors, ce sont les associations qui comptent les victimes, notamment Ban Asbestos France. Ban Asbestos veut dire interdire l'amiante et cette association fait partie d'un réseau mondial de lutte contre l'amiante qui prône donc l'interdiction dans le monde entier puisqu'il y a encore de très nombreux pays qui l'utilisent et qui l'exportent. Les victimes retrouvées, il y en a donc 358, mais une amie sociologue a fait une étude sur l'impact de la pollution du comptoir des minéraux et matières premières en 2012 et le nombre de victimes potentielles est juste énorme. On parle de 30 à 40 000 personnes dans l'étude. Alors, on en a retrouvé 358. Alors, les associations, j'allais dire, moi je les ai rejointes tardivement au décès de Paul. mais les associations se battent depuis que ce scandale sanitaire a éclaté autour du CMMP d'Aulnay pour avoir, pour obtenir la liste des ouvriers qui ont travaillé là. Mmh. Parce que ces gens-là sont morts sans comprendre. À l'époque, que ce soit au CMMP comme chez Eternit ou ailleurs, on ne disait pas aux ouvriers que l'amiante était toxique et cancérigène. Mmh. Et on a été jusqu'à leur mentir quand l'alerte sur l'amiante, d'une manière générale, a été lancée une première fois dans les années 70 par le toxicologue Henri Pezera, et une seconde fois, à nouveau par Henri Pezera dans les années 90. On a été jusqu'à leur dire, si vous l'utilisez autrement, par exemple en le mouillant, je dis bien le, parce que c'est un nom masculin, l'amiante, avec cet usage contrôlé, c'était les termes des industriels de l'époque, vous ne risquez rien. Donc nous, à notre niveau, les associations, et bien avant que je les rejoigne, ont essayé d'obtenir la liste des ouvriers qui ont travaillé au comptoir des minéraux et matières premières. Elles en ont retrouvé peu, avec leurs propres moyens, mais la plupart de ces personnes, il y avait quelques Aulnaysiens, mais la plupart de ces gens-là qui travaillaient au CMMP étaient originaires d'Algérie, de la région de Tlemcen. Et donc, ils sont repartis porteurs de cet amiante inhalé et en sont certainement quasiment tous décédés depuis longtemps.
Oui, ils sont morts là-bas, quoi.
Hein. Bien sûr.
Et vous soulignez aussi la couverture des faits opérés par les pouvoirs publics en Seine-Saint-Denis, préfet de département, ARS. Évidemment, ils contestent en bloc en disant « mais on a fait ce qu'on avait à faire », bien évidemment.
Alors oui, ça c'est édifiant. Quand vous regardez un simple résumé de l'histoire du comptoir des minéraux et matières premières, vous constatez que dès son implantation à Aulnay, en 1938, Les riverains se plaignent des nuisances, alors sonores, à cause des broyeurs, de l'amiante, mais aussi des poussières qu'il y a partout. Et ces personnes-là, à l'époque, ne savent pas qu'ils sont en train de respirer quelque chose d'hyper toxique et de mortel. On parle de conjonctivite pour les enfants, on parle de choses comme ça. Tous les ans, ou presque, il y aura des pétitions. Il va y avoir un inspecteur de salubrité publique, c'est le terme exact, qui passe voir à l'usine, quelqu'un de la ville d'Aulnay, qui va dire « mais les conditions de travail ne sont pas acceptables, les ateliers ne sont pas étanches ». Et puis, par derrière, à chaque fois, la préfecture missionne son inspecteur, qui va déclarer tout le contraire. Les conditions de travail sont impeccables, on continue comme ça.
Mmh. Et alors, on pourrait aussi souligner le dédain technocratique, le mépris, là aussi, de l'appareil d'État à l'égard des administrés, des victimes, on va dire.
Mais complètement, que ce soit au niveau judiciaire, et tiens, on va reparler de l'ARS que vous avez mentionné précédemment. Oui. L'ARS s'était engagée en 2001, suite à une discussion, si on peut appeler ça comme ça, avec les associations, à recenser le nombre de victimes en se basant notamment sur les registres scolaires de l'époque. La promesse a été tenu exactement 14 ans plus tard, mais très partiellement, puisque mon père, lui, a fait partie des chanceux, avec de très grands guillemets, qui ont reçu un courrier laconique de l'Agence régionale de santé Paris-Île-de-France. C'était édifiant, vous avez pu être exposé à des poussières d'amiante, à Aulnay-sous-Bois, etc. Contactez votre médecin généraliste. Fabuleux. Il restait à mon père 4 mois à vivre. Et je ne connais plus exactement, parce que on n'est pas très sûr du pourcentage exact. On a fait ça un petit peu, on a fait un ratio un petit peu comme ça par rapport aux personnes avec lesquelles on est en contact, mais de très 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 nombreuses personnes n'ont pas été contactées. Cette campagne de contact de l'ARS, vraiment minimaliste, s'est déroulée de 2015 à 2016, et il y a eu des appels à la suite de ça, mais surtout plus encore suite à la médiatisation dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que à la date à laquelle nous on comprend via Le Parisien, via la première page du Parisien, l'ARS a été contactée par des gens dans toute la France. mais n'a pas gardé trace des coordonnées. C'est du grand n'importe quoi, du début à la fin. On a obtenu quand même, à un moment donné, vers 2016, quelque chose sur la page de cet ARS qui a disparu en 2018. Là, on y est allé, on s'est rassemblés, des représentants des associations locales qui se penchent sur ce scandale depuis maintenant 25 ans. On nous a assuré que tout ça réapparaîtrait sur le site. Alors j'ai vérifié, oui, quelques mois plus tard, effectivement, il y avait à nouveau l'information. Vous ne la trouvez pas comme ça en tapant le mot-clé amiante ou CMMT. Il faut vraiment, dans un moteur de recherche, taper l'intégralité ARS, amiante, CMMT, et là on tombe sur une information, effectivement. Mais les services de l'État n'ont strictement rien fichu, ou presque. Et ce sont, encore une fois, les associations et les citoyens qui ont travaillé à la place de l'État.
Et vous dénoncez le comportement du corps médical et de fonctionnaires, mais vous êtes très clair, vous êtes très net, même si vous donnez d'autres noms, de toute façon tout le monde s'y retrouve. Est-ce que certains membres ont contesté vos propos? Est-ce que vous avez été attaqué? Ou bien est-ce qu'en ne faisant pas de procès, c'est une forme d'aveu?
Ah bah pour moi, c'est un aveu total, déjà, parce que j'ai su que de toute façon, ces gens-là ont été au courant. En plus, bien que n'étant pas connue, puisque comme je le dis souvent, je suis devenue écrivain par nécessité pour que mon père puisse témoigner, j'ai bénéficié à la première sortie du livre d'une couverture médiatique à laquelle je ne m'attendais pas, du Parisien à Charlie Hebdo. Donc ces gens-là ont été informés de sa parution et de ce que je pouvais relater. Mais ils n'ont même pas eu le courage de faire quoi que ce soit. Et c'est bien révélateur. Vous me direz, j'avais fait relire mes écrits par le cabinet d'avocats avec lequel on travaille chez Don Asbestos, hein, par une juriste de chez TTLA, le cabinet d'avocats TTLA à Paris. Mais je les attends de pied ferme au cas où.
Ouais. Alors maintenant, nous sommes en 2023. Tout est rentré dans l'ordre. J'en doute, beaucoup. Expliquez-nous, quel est le combat encore à mener, là, maintenant?
Il y a plusieurs combats à mener. On peut parler déjà de l'amiante en place. Alors, l'amiante a été interdit fin 1996. En France, sa commercialisation, son exportation. Mais de l'amiante, il y en a partout.
Oui.
Il suffit d'aller faire un tour dans des zones industrielles. Les toitures sont couvertes de fibres au ciment, c'est-à-dire d'amiante ciment, de l'amiante lié avec du ciment.
Oui, c'est l'Eternit,
c'est la marque Eternit, tout à fait. Il y en a aussi dans les exploitations agricoles. D'ailleurs, à la Déva Centre, une des trois associations dont je fais partie, on a de plus en plus d'agriculteurs, de dossiers d'agriculteurs, pardon, je vais y arriver, qui tombent malades. Puisqu'ils ont travaillé sous ces toitures en amiante ciment qui se délite avec le temps. Et puis, le problème crucial, et là, je vais adresser un salut particulier à une amie qui s'appelle Lorraine, qui a perdu son père de la même pathologie que le mien. Il était enseignant, il s'appelait François, et il a inhalé de l'amiante toute sa carrière dans sa salle de cours, puisque le problème le plus important concernant l'amiante en place, c'est l'amiante dans les écoles. Et là, à nouveau, je vais employer l'adjectif édifiant pour dire que les pouvoirs publics s'en contrefichent. Les associations, que ce soit Ban Asbestos France, que ce soit les associations du réseau Andeva, ont contacté les ministres, ont contacté des députés, ont contacté énormément de gens pour expliquer ce qui se passe. Et Santé publique France, pour une fois, a fait l'effort en 2019 de donner des chiffres qui sont alarmants sur les personnels enseignants qui tombent malades et qui décèdent de l'amiante. Bon, malheureusement, ont été exclus les agents d'entretien, qui sont les premiers vraiment à être exposés, puisque de l'amiante, on en trouve notamment dans les dalles, au sol, dans les établissements scolaires. Il y en a partout. Et les élèves ont été exclus aussi. Le type d'établissement scolaire le plus touché, ce sont les lycées professionnels, qui en contenaient encore en 2019 à 79%.
D'accord. Donc là, vraiment, donc ça, c'est un des combats menés par ces associations. Alors, elles sont plusieurs. Quelle est leur complémentarité, pardon ?
Alors, je vais vous répondre, mais je voulais revenir juste oui. avant pour terminer de vous répondre sur la question précédente. Il y a d'autres combats à mener. Hein. Il y a l'amiante en place, d'accord, notamment dans les établissements scolaires. Mais il y a aussi une recherche qui doit être accrue des crédits qui devraient être donnés pour la recherche spécifique sur ce cancer, puisque il est souvent nommé le cancer des ouvriers, bien qu'il se démocratise à cause de l'amiante en place et du temps de latence, mais on en est toujours à un protocole de recherche officiel qui date de 2006. C'est du grand n'importe quoi. C'est la double peine. Mmh. On tombe malade et après, on n'a aucune chance, ou presque, de s'en sortir. Et puis, si vous le souhaitez, on pourra parler du pénal juste après. Mais alors là, c'est l'impasse totale et c'est une honte. C'est la honte, une des hontes de l'État français, pour moi.
Non, alors, c'est vrai, le temps passe. Ces associations, comment oui. elles sont plusieurs. Comment peut-on les aider ?
Ben, en les rejoignant, en adhérant. Alors, bon, Ban Asbestos France, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, fait partie d'un réseau qui prône l'interdiction mondiale. L'une des dernières victoires, elle se situe en Amérique du Sud, notamment au Brésil, récemment. C'est encore assez récent. En Colombie aussi, ça, c'était début 2022. Il y a l'association Henri Pevera.
Oui.
Alors, Henri Pevera, je l'ai cité tout à l'heure.
Oui.
Les deux associations, Ban Asbestos France et l'association Henri Pevera, ont été créées par Annie Thébault-Meny, qui est sociologue et chercheur en santé publique. Elle a écrit la préface de mon livre.
Oui.
Chez Henri Pevera, on regroupe des victimes des pesticides également, du nucléaire et d'autres... d'autres expositions dangereuses. Et puis, il y a, entre autres, hein, parce qu'il y en a d'autres, je pense par exemple à l'association Centaure, dans le sud de la France, il y a le réseau Andeva, Association Nationale de Défense des Victimes de l'Amiante, qui est plus centré sur l'aide aux victimes dans la composition des dossiers et pour les reconnaissances en maladie professionnelle.
Et alors, vous-même, vous vous déplacez pour animer les débats ?
Eh bien oui, depuis la sortie de ce livre, j'ai dû faire à peu près 75 interventions dans toute la France. Et depuis l'été 2020, j'ai aussi une exposition à disposition sur le scandale spécifique du CMMP d'Aulnay-sous-Bois. Cette exposition a été écrite et coordonnée par Anne Marchand, qui dirige le GISCOP 93. C'est le groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle en Seine-Saint-Denis. Et effectivement, je me déplace. Alors, le mot conférence est un peu pompeux, mais je présente cette exposition et mon livre, dont les bénéfices sont reversés aux associations. C'est ce qu'aurait souhaité mon père. Je
oui.
ne gagne pas d'argent là-dessus.
Oui, j'ai fait un petit commentaire de votre livre sur la chronique des idées et des luttes sur le site du Monde Libertaire. Et on y retrouve à la fin de l'article les coordonnées des différentes associations pour les rejoindre.
Oui, je l'ai vu. Oui.
Militer
merci
avec
beaucoup.
Elles. Et puis, pour vous, si on voulait faire appel à votre faconde, votre enthousiasme, comment fait-on on passe par nous, on vous...
Ah ben, aucun souci, avec grand plaisir.
D'accord.
Autrement, j'ai un site internet qui porte le nom de mon livre, Amiante et mensonges, notre perpétuité. Il y a un onglet contact et on peut me contacter là aussi.
Mmh. Et c'est vraiment un livre, d'abord c'est un livre copieux, intéressant, qui présente vraiment la relation familiale, mais qui donne aussi des billes, qui donne des arguments, qui fournit des données techniques et qui vraiment doit nous inciter à nous mobiliser sur ce drame. Et dans notre émission, en début d'émission, on a Marie qui nous a présenté un autre drame. drame, le drame du Mediator.
D'ailleurs, c'était intéressant de faire le parallèle entre ce que vous disiez au début de votre intervention, c'est qu'en fait, vous n'aviez pas pu publier le titre que vous aviez souhaité au départ, parce
oui,
que ça, voilà, et ben c'était pareil avec Irène Frachon finalement, parce que quand elle a publié son livre intitulé Mediator, combien de morts, le titre a été censuré finalement parce que ça incriminait directement les laboratoires Servier. Donc c'est intéressant de faire ce parallèle, effectivement, oui.
Oui, tout à fait, mais c'est une personne que j'ai croisée où est-ce que c'était ? C'était à Montreuil, il me semble, en 2019, sur le salon c'était un salon du livre avec des lanceurs d'alerte. Je n'ai plus le titre exact, mais je l'ai vu là en présentation, Irène Frachon, et c'est vrai que le parallèle est là.
Oui.
Mais on peut parler aussi, par exemple, des pesticides. On a ami Paul François, l'agriculteur français contaminé par... l'un des agriculteurs, il y en a tellement, malheureusement, contaminé par Monsanto, mais qui, lui, a gagné contre cette firme qui fait partie, comme j'ai dit, de l'association Henri Pevrin. On s'est rencontrés là en 2016, on a fait des présentations ensemble. Il a d'ailleurs été victime d'une agression sauvage en février dernier. Et tout ce qu'il a subi, c'est absolument insupportable. Mais quand vous lisez son livre, Un paysan contre Monsanto, je n'ai pas de mots. Et il m'a dit le parallèle est criant entre nos écrits. Mais de toute façon, à chaque fois, c'est ça, c'est le profit au détriment des vies.
Oui.
Alors, Virginie, il est 18h, on va rappeler le titre de votre livre et l'éditeur.
Alors, c'est Amiante et mensonges, notre perpétuité. Il est sous-titré Journal de Paul et Virginie. C'est le hasard des prénoms. Paul, c'est mon père, comme on l'aura compris, et Virginie, c'est moi. Il est publié depuis 2021, j'ai changé d'éditeur, il est publié aux éditions Valmont, Valmont, à Vierzon. Et pour contacter cette maison d'édition, il faut entrer en contact avec Jean-Pierre Bambier, Bambier, qui habite à Vierzon, dont je pourrais vous fournir les coordonnées pour le site si vous le souhaitez.
D'accord, très bien, merci. Et puis, je suis passé, je fais toujours ça avant de venir à l'émission, je suis passé chez Publico et il y a 4 ou 5 exemplaires de votre ouvrage, évidemment, bien placé. Il faut vraiment le lire, ça fait
merci
partie
beaucoup.
De ces livres qui nous mobilisent et qui nous donnent envie de nous battre. Merci en tout cas Virginie, et puis
merci à
bien
vous.
Écoutez, à une autre fois, on se rappellera certainement. Au revoir.
Avec très grand plaisir.
Au revoir.
Et merci.
Merci Frédéric. Alors, nous avons passé un petit morceau, là, Song for My Father. Depuis le début de l'émission, donc, nous mentionnons rapidement les titres des ouvrages commentés. Vous retrouverez toutes leurs références, comme à l'ordinaire, sur le blog Commune de Paris de la Fédération anarchiste. Et puis, vous pouvez les commander auprès de Publico. la revue, enfin la librairie, pardon, de la FA, 145 rue Amelot, Paris 11e. Vous pouvez retrouver aussi certains de nos commentaires sur la page Facebook Au fil des pages et dans la chronique Des idées et des luttes sur le site du Monde Libertaire. Et puis, alors c'est le cas par exemple du livre de Virginie dans la chronique de cette semaine. Et n'oubliez pas les éditions Valmont. Virginie nous a donné les références et nous les retranscrirons sur notre site. Troisième temps de l'émission, Varia, un moment d'histoire. Alors, Frédéric va nous parler du livre de Pierre Douillard-Lefebvre, « Nous sommes en guerre, terreur d'État et militarisation de la police », publié en 2021. Frédéric, est-il toujours d'actualité selon toi ?
Oui, tout à fait. Bonsoir à toutes et tous. Pour cette émission, j'ai choisi de vous parler d'un livre qui est d'actualité, en effet, au vu du climat de répression du mouvement contre la réforme des retraites. Déjà, le titre de ce livre peut vous faire penser qu'il s'agit d'un livre traitant de l'antimilitarisme, or il s'agit de la militarisation des forces de répression. L'auteur, chercheur en sciences sociales, nous décrit, nous informe avec des sources nombreuses de la montée en puissance des moyens techniques dignes d'une panoplie guerrière pour faire taire toutes les formes de contestation sur la voie publique. Des armes présentées comme non létales, mais qui ne le sont pas, au vu des exemples documentés dans le livre. Le coup psychique est aussi abordé dans ce livre. Les principaux acteurs y sont nommés, les fabricants de ces armes, fabriquées, on vous le donne, en mille et mille, en France, les acteurs politiques de la mise en place des nouvelles techniques de répression, cette montée crescendo de la violence d'État impliquant plusieurs gouvernements successifs, décortiquant les techniques gouvernementales de communication, dont entre autres le renversement de la charge de la responsabilité, et jeter le discrédit sur la victime, et parfois sur ses proches, qui osent monter des collectifs pour réclamer justice. Des chapitres, Nous sommes en guerre, Histoire de la violence, Les laboratoires de la peur, Hégémonie de la peur, Larme à l'œil, épilogue. C'est un livre bien écrit, suivant un raisonnement logique et une chronologie bien étayée par de multiples exemples bien sourcés, denses et précis. Que faire devant tout ceci ? L'auteur esquisse des pistes plus que valables qui me semblent plus que intéressantes à étudier. Pour rappel, l'auteur lui-même a été victime de cette répression en étant blessé à l'œil en 2007, et parle de son combat contre l'État dans le chapitre épilogue. Ce livre ne m'a pas laissé indifférent et me fait craindre, à titre personnel, un avenir bien peu rassurant vu le développement des technologies en matière de surveillance et d'amélioration, entre guillemets, des moyens techniques, dont les armes, soi-disant, non létales. Je vous rappelle les références du livre. Nous sommes en guerre, terreur d'État et militarisation de la police, édition Grévis, 244 pages, prix 12 euros. Voilà, je te repasse la parole, Francis.
Tu nous rappelles le nom de l'auteur ?
Oui, alors, c'est... tu me l'as dit, mais je ne l'ai pas noté.
Je vais te le dire, c'est Pierre Douillard-Lefebvre, et on retrouve toutes ses références sur notre blog. Et puis, c'est un peu l'occasion, on va passer une petite chanson à bas l'état policier.
Que la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Par parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Krivine, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des Beaux-Arts jusqu'à Nanterre. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier.
Eh bien, nous poursuivons nos pérégrinations historiques et là, nous retrouvons quelqu'un que j'aime bien aussi, Louis Guilloux. Or, on le connaît pour ses livres « La maison du peuple » dédiée au combat de son père, cordonnier, socialiste qui voulait que le peuple, les ouvriers, puissent disposer d'un lieu à eux. Sans oublier évidemment le célèbre livre « Le sang noir ». Grand ami de Camus, qui préfacera La Maison du Peuple, il alterne entre Saint-Brieuc, où il naquit en 1899, et Paris. En 1976, vers la fin de sa vie, il va mourir en 1980, il publie un petit livre qui lui donna beaucoup de mal pour accoucher d'un texte terrible. Ok, Joe. Eh oui. Tout est régulier. Ok. Les GIs, plutôt décontractés dans leurs relations. Et pourtant, ce sont des Noirs qu'on va arrêter et qu'on va pendre. Ah, le crime est réel, il y a des agressions, il y a des gens qui sont, oui, effectivement, attaqués par des soldats. Mais lorsque ce sont des Blancs, eh bien, vous lirez la suite, mais je peux vous dire que les Blancs s'en sortiront bien, alors que ben, les Noirs sont non seulement arrêtés, bon ça c'est un fait, c'est normal, oui, il y a à débattre, mais ils sont pendus. Voilà. Et comme souvent, chez les vrais écrivains, il y a plusieurs livres dans le livre. Il y a cette injustice, ce racisme au sein de l'armée américaine, et Louis Guilloux les décrit avec des phrases courtes. On sent le journaliste. Et puis, il y a aussi un ton neutre. La libération de Saint-Brieuc, les vengeances, la fille tondue. Le passage sur la fille tondue est assez dur à lire. Les instances de jugement, l'épuration en France. Il y a aussi la libération de la Bretagne. Et oui, Guilloux, qui était traducteur pour les troupes américaines, eh bien, va accompagner ces mêmes troupes. Il y a donc la libération de la Bretagne. Il y a les échos au loin de la bataille de la Poche de Lorient et celle de Brest. Et Guilloux suivra un temps les troupes américaines. Et puis, son propre chemin. Était-il trop critique ? En tout cas, ce qui est clair, c'est que les Américains eux-mêmes ont compris qu'à un moment, ben, c'était pas OK et qu'ils ne pouvaient pas rester avec eux parce qu'ils voyaient ne serait-ce que dans son regard, dans son expression, dans son étonnement, qu'il était choqué par ce racisme, ces inégalités fondamentales qu'il pouvait découvrir dans cette armée qui devait libérer la France. Voilà donc un petit ouvrage présentant des faits, donnant un autre éclairage sur cette libération dont toute l'histoire n'est pas encore écrite. Alors, je vous rappelle le livre, le titre, Louis Guilloux, OK Joe. C'est un petit ouvrage publié chez Folio en 2013, une réédition, pardon, en 2022. Donc là, c'est vraiment un livre intéressant à découvrir. Je vous dirai deux mots aussi d'un livre qui a été écrit par Nastassia Martin, qui, oh, vous la connaissez, elle a déjà écrit un livre il y a quelques années sur un peuple d'Alaska, qu'elle a appelé « Les âmes sauvages face à l'Occident, la résistance d'un peuple d'Alaska ». Et là, elle vient de publier un troisième ouvrage, « À l'Est des rêves », c'est la réponse évène aux crises systémiques qui dénoncent la situation, non pas en Alaska, là, mais au Kamtchatka, autour du détroit de Bering. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la comparaison opérée entre, à l'extrême est de la Russie, une grande diversité de peuples autonomes et autochtones, dont les Évènes, mais aussi de l'autre côté, en Alaska, des peuples qui, eux aussi, ont pu échapper un temps à l'emprise du capitalisme. Et puis, c'est là, puisqu'elle s'intéresse au peuple évène, eh bien, ceci, là, c'est un peuple de nomades, éleveurs de rennes, qui ont été sédentarisés dans des fermes collectives par le régime soviétique, qui utilisa à des fins folkloriques leur culture locale. Et puis, avec la chute du système en 1991, eh bien, certes, le pouvoir mise sur le tourisme, mais il y a une famille qui décide de repartir en forêt, de retrouver le contact avec la nature, un mode de vie autonome fondé sur la chasse, la pêche et la cueillette. Est-ce possible de retourner comme cela après avoir été spolié, déculturé par un pouvoir colonisateur? Comment se saisir de la crise systémique pour regagner son autonomie? Comment renouer le dialogue avec les animaux, les éléments, alors que les chamans ont été éliminés? Et l'analyse comparative à laquelle procède Nastassia permet de montrer les parallèles entre les méthodes américaines et russes. Alors vous allez vivre avec l'auteur, au quotidien, dans cet environnement en suspens, et vous aurez le contact avec les animaux. Oui, les animaux ont une âme. Les éléments échangent avec les humains. Il y a de très beaux passages sur l'eau, le feu et cette courte phrase. Les humains l'observent en parlant du feu. Ça, c'est très beau. Et le principe d'animation. Y a-t-il un dieu ? C'est à vous de le découvrir. C'est donc très intéressant. C'est un livre qui fait écho aussi à son deuxième ouvrage. Vous savez qu'elle avait rencontré un ours et qu'elle avait été à moitié défigurée par cet animal. Donc je donne les références. Tout d'abord, « Les âmes sauvages, face à l'Occident, la résistance d'un peuple d'Alaska, la découverte en 2016 ». Toujours du même auteur, « À l'Est des rêves, réponse évène aux crises systémiques », toujours aux éditions de la Découverte en 2022. Et puis, « Croire aux fauves », aux éditions Gallimard, collection verticale, en 2019. Une dernière référence, et Dominique va nous rejoindre, le très beau livre de Vladimir Arseniev, « Dersou Zala », aux éditions Transboréales, en 2022. Voilà, nous sommes en train de retrouver le contact avec un monde naturel. C'est toujours assez fabuleux. Vous verrez, ces livres sont tout à fait passionnants. Alors, un moment plus doux désormais. Un moment plus doux dans la série Le son des mots avec Dominique. Alors, Dominique.
Oui, bonjour. Alors, Francis.
Bonjour.
Alors, pas forcément plus doux.
Bon. Allons bon. Alors, donc nous allons parler d'un poète récemment disparu, Christian Bobin.
Oui. Oui.
Pour sa, ben, un recueil dans la collection Quarto, là, chez Gallimard. Et puis un autre poète, Étienne Faure, Vol en V. Alors, dis-nous tout.
Alors, ce sont des poètes qui expriment des choses très simples. Je les appelle les poètes du quotidien. Ils regardent, ils aiment, ils marchent, ils lisent, ils écrivent. Ils font l'éloge du rien. Ils peuvent s'enchanter pour une branche de lilas. Mais attention, ce ne sont pas forcément des poètes optimistes. Hein, on va le voir. Alors, d'abord avec Christian Bobin.
Oui.
Alors, je ne vais pas rappeler sa biographie. Je l'avais déjà faite. Hein. Donc,
bon, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Enfin, il n'y a pas très longtemps.
Oui, le 23 novembre 2022. Oui. Mmh. Hein. Alors, il était réputé un peu le poète de la joie, un peu optimiste, même un peu mièvre, mais cette anthologie le montre quand même plus sombre et plus complexe hein, qu'il n'y paraît. L'ordinaire de la vie est toujours relié à un arrière-plan philosophique. Ses textes sur la joie sont des antidotes à son pessimisme fondamental sur le genre humain, un peu comme Émile Cioran ou Jean Giono.
Hein. Oui, et ces textes du quotidien, là, qu'est-ce que tu as apprécié particulièrement ?
Alors, j'ai bien aimé la préface qui est intitulée « La cristallerie de la reine » parce qu'il parle beaucoup du Creusot, alors que dans le reste de son recueil, il en parle très peu.
Hein. Alors, explique-moi, qu'est-ce que c'est, enfin, explique-nous, qu'est-ce que c'est la cristallerie de la reine ?
Oui, c'est Marie-Antoinette qui a décidé de créer une cristallerie au Creusot. Alors, je vous lis un extrait. Alors, pour lui, c'est, il dit, une ville de rêve qu'en font ses habitants. Le Creusot est un lit de granit sur lequel, dans l'interminable nuit du monde, les dormeurs ont laissé venir à eux des rêves de canons, de boulets, de locomotives, de nourriture de fer pour la Première Guerre mondiale. Donc, le Creusot a été une ville très industrielle. Mmh. Et donc, il y a toute une petite nouvelle sur cette cristallerie. Il évoque cette création avec Marie-Antoinette et comment s'est déroulée la vie autour du Creusot. Il rend aussi dans une autre nouvelle qui est intitulée Pierre, il rend hommage à son père et à l'usine. Il fait un parallèle entre le noir de l'usine et le noir de Soulages, ce qui est assez intéressant, hein, puisqu'il adorait Soulages. Oui. Alors, j'ai aimé aussi, il y a beaucoup de textes qui concernent les femmes et l'écriture. Pour elle, un peu comme Virginia Woolf dans Une chambre à soi. Par exemple, il dit « Beaucoup de femmes écrivent dans leur maison gelée. Elles vont dans l'écriture comme un printemps. » Et il montre toute la difficulté des femmes à se défaire de leur quotidien, justement, pour écrire.
Mais alors, ce n'est pas que des poèmes ?
Ah non, alors moi je qualifie c'est de la poésie en prose.
D'accord.
Parce que il est nettement meilleur pour la prose poétique. J'avoue que j'aime pas trop ses poèmes en vers. Hein. Mais là c'est vraiment très très beau. Hein. Et bon, beaucoup de textes aussi sur la lecture et l'écriture qu'il ne sacralise pas. Pour lui, la lecture et l'écriture c'est deux choses de la vie quotidienne. Hein, il dira rien et surtout pas l'écriture pour sacraliser. Pour lui, ça fait partie de la vie. Hein.
La
et
vie,
je vais terminer sur
vie,
son
donc.
Amour de la poésie,
ouais.
Notamment un texte sur la mort de Mandelstam. Alors je lis « Tuer un poète est le sport favori des tyrans. Il ne supporte pas la parole du poète. Poignée de cris jetés sur l'herbe, trop bien tondu. Dans la Russie soviétique, il est interdit de penser, d'aimer et d'écrire. Nadezhda Mandelstam, donc la femme du poète, mange les poèmes de son mari quand celui-ci est emporté dans les camps où il mourra. Elle apprend 1000 poèmes, les fourre dans son cœur, où les inquisiteurs en bure de cuir noir de l'État ne pourront les trouver. Elle fait revenir les poèmes au jour, Nadezhda. Nous devrions aimer autant Nadezhda qu'aussi. Autant, sinon plus. Donc c'est un hommage aussi à la femme de Mandelstam.
Donc un très beau, enfin un recueil à lire avec un plaisir, enfin faut
oui,
lui consacrer
à
petite
oui,
dose, hein, c'est ça.
Oui,
hein,
oui,
voilà.
Oui.
Et Étienne Faure alors, Vol en V, toujours chez Gallimard.
Donc Étienne Faure est né en 1960, il a fait des études de droit et d'aménagement, hein, nul n'est parfait.
Oui, ça nous rappelle des souvenirs.
Oui, ça nous rappelle des choses. Alors, il vit dans le triangle Bastille-Nation-République et fréquente souvent le coin du cimetière du Père-Lachaise et son mur des fédérés. D'ailleurs, il pique-nique dans ce cimetière, hein, il dit « Et c'était la guinguette au cimetière, les morts rajeunissaient à cette approche ». Il adore le 11e arrondissement, hein, car ce sont des lieux de mémoire, depuis la commune jusqu'à la rafle du Veldiv, et plus récemment les attentats qui ont frappé cet arrondissement. Alors, pourquoi ce titre « Vol en V » ? Parce que c'est le vol des oiseaux qui apparaissent tout le long du recueil. Il dit « Écrire et voler était le sort des plumes ». Il fait une analogie entre avec la plume. Mmh. Et les oiseaux apparaissent, il y a beaucoup de poèmes, alors cette fois-ci en vers, dans des tableaux de Bruegel, de Kirchner, de Soulages, encore lui. Et il termine le livre par la référence à un vrobel, c'est un mot polonais pour dire moineau, dont le bruit du vol, de la fuite, est traduit d'une façon très sonore par un frout, qui est très amusant, qui termine le livre. Alors, son quotidien, il se met à la fenêtre dans le 11e et regarde la vie de ses voisins. Par exemple, il regarde la livraison d'un piano par les airs. Alors, il écrit « Au 7e de la rue, laisse entendre une musique d'automne, Chopin, Liszt ou bien du jazz. » Il va rue de Prague et il remarque que du linge est accroché au vent d'avril et une machine à laver qui se met en route. Donc, c'est vraiment des choses quotidiennes.
Alors, on sait aussi qu'il s'intéresse un peu à la géographie, l'histoire dans son quotidien.
Oui, oui. Alors, beaucoup de géographie. On s'envole avec lui ou on marche. Il fait l'ascension des Buttes-Chaumont comme si c'était une montagne, comme un alpinisme. Il part aussi en Suisse, en Irlande, en Hongrie et dans les alpages. Je vous lis juste deux, trois vers. Alors, ça s'appelle « Descente des randonneurs ». Avec un sac à dos de pénitents, un philosophe allemand dans la poche, il partait tôt le matin en silence, gravir les monts, tutoyer les Edelweiss pour redescendre au soir, ébloui. Alors, il y a aussi beaucoup d'histoires. Il est attentif aux gens ordinaires pris dans l'histoire. Il se rate devant une plaque où est indiqué « Rafle en 42 ». Raflé en 42. La commune revient souvent. Il dit dans un poème « Il faudrait cette ville à revivre au premier bourgeon du printemps, voir renaître la commune, rectifier Versailles. » Il flâne à la manière de Walter Benjamin. Il parle aussi, il aime bien les cimetières. Il parle du cimetière de Picpus, autrefois un jardin. Et il lit ce cimetière avec les têtes coupées de la terreur. Alors je vous lis, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas toujours très optimiste. Des poires, il lit les poires et la terreur. Des poires prometteuses, parfumées, fondantes. Des Louises bonnes, des Comices, des Williams, des conférences. Taillées en espalier le long des murs de l'enclos, où furent ensevelis les corps sans tête en thermidor si juteuses.
Alors son style ?
Alors son style. Alors les titres des poèmes sont placés à la fin de chaque poème, ce qui est une originalité. Mmh. Bon, ça nous désoriente un peu, mais ça nous incite. Du coup, on a envie de créer nous-mêmes un titre. Il utilise des mots du langage courant, grôle, godasse, grimper sec, tu parles, tomber des cordes, des curés, des bobards. Donc je vous lis un dernier texte. Le temps n'est pas bonnard, on dirait qu'il va tomber des cordes, des curés, des bobards du ciel antique, jusqu'à la fin du monde, puis le bleu revient, je savais bien, c'est l'heure de sortir. Enfin bref, on s'envole bien avec ce poète sous le signe du vent et de la vie.
Alors, ce n'est pas un livre très épais, mais c'est un livre très dense.
Très dense. Hein, oui.
Très, très dense. Oui, oui. Alors,
des poèmes en vers, là. Des poèmes en vers. En vers libre.
En vers libre, oui, c'est ça. Hein, oui. C'est, d'accord, oui. Très bien. Alors, écoute, voilà, un moment de poésie.
Oui.
La prochaine fois, le 10 mai.
Alors, je vais vous présenter un livre assez original, qui est un essai, c'est entre un essai et une poétique et scientifique. Ça s'appelle Lichen. D'accord. Et c'est un jeune scientifique qui s'est lancé dans l'étude du lichen, et on apprend beaucoup de choses, notamment que c'est vraiment le symbole du lien social.
D'accord, très bien. Eh bien, écoute, merci et rendez-vous le 10 mai. Allez,
oui.
Au revoir.
Au revoir.
Alors voilà, chers amis, quelques livres auxquels nous tenions. Nous souhaitions vous faire partager ce plaisir, cet intérêt. C'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Merci pour votre écoute, votre fidélité. Dans 15 jours, le 10 mai, comme nous l'évoquions avec Dominique, nous recevrons Sandrine Malika Charlemagne et nous partagerons son goût pour les mots, encore de la poésie, et c'est parfait. Le titre de son recueil, La petite métisse ouvrière, aux éditions La Rumeur Libre. Et d'ici là, écoutez, bonne lecture. Et l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré. À bientôt et au plaisir de partager. Frédéric.
et le remords des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles, qui tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice, dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette, sous prétexte qui n'en peut être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile fait plier les imbéciles, et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu